Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez ou vous regardez votre podcast 100% Catch. Ici, toutes les semaines, on analyse, on résume l'émission phare de la WWE Monday Night Raw. Pour m'accompagner cette semaine, l'inimitable, l'incroyable, Amiral Armbar. Comment ça va, Amiral ?
Salut, très bien, ça va parfaitement bien. Revenu d'Afrique, mise aux couleurs de l'Angleterre ce soir pour ce Raw à Manchester.
Raw en Europe, effectivement. C'était le 6 novembre, donc à Manchester, comme je viens de le dire. Et au programme de ce soir, Kurt Angle est l'invité de Miss TV. Ilias CC à l'acapella. Alicia Fox recrute pour les Survivor Series. Enzo goûte aux spécialités locales. Samoa Joe lance un Open Challenge. Et Rollins et Ambrose défendent leur titre face à Sheamus et Cesaro. Donc il y a encore du lourd ce soir, hein, encore un Monday Night Raw historique, qui démarre par un petit résumé vidéo des mésaventures du Miz, hein, qui la semaine dernière donc, a été rossé, malmené par Braun Strowman, le monstre parmi les hommes, qui est de retour à travers les poubelles. Il a notamment dangereusement malmené le pauvre Curtis Axel, qui viendra aujourd'hui avec une Minerve, hein, puisque on démarre tout de suite avec Miz TV. Le Miz envoie un petit message à son ennemi du moment, Baron Corbin, hein. Ils ont une petite feud via Twitter. Il explique que Baron Corbin a encore parlé non seulement sur sa femme, mais aussi sur sa petite fille à naître. Une petite promo très badass du Miz, qui explique qu'il est dans la Major League, et que au Survivor Series, il va donner du prestige à la fois à Baron Corbin et à la fois au titre US que Corbin est incapable de faire lui-même. Ça c'est pour ce qui concerne les Survivor Series. Mais on va tout de suite passer à l'invité du jour qui est Kurt Angle, le General Manager.
Quel invité,
hein, prestigieux. Ah ouais. Pas tous les jours qu'on reçoit Kurt Angle. Ah non. Et justement, Kurt Angle, il supporte à 100% le Miz dans sa rivalité contre Baron Corbin. Mais par contre, le Miz, lui, il n'accepte pas du tout ce support. Il va passer l'interview à miner Kurt Angle, hein, en expliquant qu'il n'a pas été du tout professionnel, qu'il n'a pas protégé SmackDown. Il part d'un complot, un complot qui est
pas protégé Raw, parce que SmackDown, c'est normal qu'il protège Raw, SmackDown, ouais. Mais...
Voilà, exactement. Mais il n'a pas protégé Daniel Bryan, par exemple, qui représentait SmackDown et qui s'est fait exploser par Kane dans les coulisses, dans le noir. Kurt Angle, il va s'excuser d'ailleurs pour les actions contre Kane. Mais le Miz, il en remet une couche. Hein. Il accuse vraiment Angle d'avoir éliminé Daniel Bryan, comme il a essayé d'éliminer le Mistourage. Il en veut pour preuve le fait que, malgré le fait que Braun Strowman ait démonté le Mistourage, est toujours... Curtis Axel qui reçoit une belle pop de la foule, hein, Curtis Axel, ouais. Les gens sont tristes de le voir blessé. C'est un plan pour détruire le Mistourage, puisque Braun Strowman a été récompensé en étant incorporé dans la team Raw pour les Survivor Series, ajout de poids. Angle, il commence à s'énerver, il dit ça suffit maintenant, hein, parce que le Miz lui fait son petit truc de la main en l'air, hein, quand il essaye de parler, il lui dit non, quand je lève ma main, tu fermes ta gueule et tout ça. Mais ça plaît pas du tout à Kurt Angle, qui se lève, hein, qui sort les muscles et qui dit écoute, Braun Strowman, effectivement, c'est mon choix, mais Braun Strowman, c'est un sacré négociateur, puisque non seulement il est incorporé au Survivor Series, mais pour qu'il puisse rentrer dans l'équipe, j'ai dû lui promettre un match, et le match, c'est ce soir, et l'adversaire, c'est rien que toi, hein, rien moins que toi, le Miz. Donc ce soir, on aura un match du Miz contre Braun Strowman, la ceinture n'est pas en jeu.
Heureusement,
hein, parce que sinon c'était la fin du règne de Miz. Et voilà, donc ça se termine là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette intro de ce public anglais qui était chaud bouillant ?
Ouais, un public clairement engagé. Bon, les Anglais sont toujours contents d'avoir un Raw filmé chez eux. Hein. C'est un des seuls pays, je crois, hein, ou dans les États-Unis qui a droit à ce privilège. Mm-hmm. En plus, là, ils vont avoir un SmackDown le lendemain. À chaque fois que ça commence par un Miz TV, c'est plutôt pas mal. Hein. On sait qu'on va avoir une bonne promo, ça lance le show, ça annonce la suite logique. Donc, ce match redouté par le Miz et ses potes du Mistourage. J'ai beaucoup aimé la façon de vendre de Curtis Axel et ainsi que de Bo Dallas. Donc voilà, rien de révolutionnaire dans ce segment, mais bon voilà, ça, je pense que ça fait partir plutôt bien le show pour ce public anglais qui était bien chauffé à blanc.
Ouais, un bon démarrage de show. Et puis les répliques face à Baron Corbin.
Ouais, bah écoute, ça c'est peut-être dans les affrontements qu'il y a sur les Survivor Series entre les champions de Raw versus champions de SmackDown, c'est peut-être celui où il y a le plus de grains à moudre, hein, où il y a le plus de matière. Ils ont bien utilisé les deux, les réseaux sociaux, puisque visiblement la WWE, ne, à part pour Jinder versus Brock Lesnar, ne souhaite pas donner vraiment de temps d'antenne ni à Raw ni à SmackDown pour que les gens se chauffent, pour que les champions se chauffent au travers des émissions. Bah les deux, Corbin et le Miz, je sais pas sous l'impulsion de qui, peut-être plus de Miz vu qu'il est plus coutumier de la méthode, ont bien utilisé Twitter et les autres outils de ce style pour bah, se faire des promos croisés et monter la rivalité. Donc c'est ça, je dois dire que ça tire l'épingle du jeu par rapport à ces affrontements qu'on va avoir champion contre champion,
ouais. De mon point de vue. Rivalité 2.0 un peu. C'est ça les rivalités, ouais. De 2017. Tu passes par Twitter, tu t'envoies des petites vidéos que tu fais toi-même et on voit que ça peut fonctionner un peu, ouais. Partout dans le monde.
Carrément, et c'est vrai que le Miz, il est plutôt bien dans ce créneau-là. Hein. Il utilise nombreuses reprises, très ancré. C'est un peu pour moi le Miz, j'ai réalisé ça avec ce rôle-là. C'est un peu le Edge de 2017, quoi, finalement, je trouve, le Miz. Hein. Il est le top heel. Du roster, c'est pas le heel massacreur et redoutable, c'est un heel lâche qui a besoin d'aide pour gagner comme Edge à l'époque. À une époque, il avait Maryse, comme Edge avait Lita. Il a son mistourage comme Edge avait les Edgeheads, donc Curtis Axel et Zack Ryder à l'époque. Le gars était champion plein de fois, il sait tenir son micro. Dans le ring, c'est pas le meilleur, mais il est vraiment là. Même si Edge était beaucoup plus risqué, hein, et a fait beaucoup de choses très très folles dans sa carrière, alors que le Miz est un peu plus dans la sécurité, on va dire. Mais en même temps, il a jamais été blessé, donc il a aussi un avantage là-dessus. Je pense vraiment que là, le Miz cette année, vraiment, il a pris une ampleur à tous les niveaux qui est assez incroyable. Et ouais, je le vois bien, le nouveau Edge 2017. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour il y a quelques années, quoi. Moi, je suis un gros fan de Edge et jamais j'aurais cru un jour pouvoir faire une comparaison flatteuse pour le Miz en ce sens. Et ben voilà, il m'a convaincu.
Ouais. Non, c'est clairement un des piliers de Monday Night Raw et de la WWE en particulier. Il y a beaucoup d'émissions qui reposent sur le Miz, hein, en fait, hein, quand on regarde un peu de loin, avec un peu de recul. Alors, comme on est en Angleterre, il y a des petits problèmes techniques. Hein, je ne sais pas si tu as eu le même souci sur le visionnage. Hein,
tout à fait, ouais. Ce n'est pas votre écran, pas besoin de le régler. C'est vraiment la régie qui n'a pas su gérer le balancement d'un flux à l'autre en direct. Mais bon, c'est pas grave.
C'est ça. Alors, pendant une espèce de pub ou des images de Manchester, on entendait Kiss My Ass chant. C'est toujours sympa.
Et, c'est les Anglais, hein.
Ouais, c'est l'Angleterre, voilà. Et donc la suite, alors c'est un match assez exceptionnel puisque c'est un Guitar on a Pole match, hein, qui nous rappelle les plus belles heures de la WCW. On nous explique que ça fait bien 20 ans, je crois, qu'on n'a pas eu de match de ce type.
Et on comprend de suite pourquoi ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu un match de ce type, c'est nul.
Effectivement, parce que c'est nul. Donc, voilà, Elias contre Jason Jordan.
Non, quand même, la règle, c'est le premier qui casse sa guitare sur la gueule ou le dos de l'autre gagne. C'est comme un tables match, mais avec une guitare, quoi, en gros.
Mais par contre, ce sera pas sur la tête, parce que désormais, c'est interdit. Hein,
oui.
Sur la tête, donc ils font des coups sur les épaules, mais ça finit toujours par ricocher sur la tête de celui qui se prend la guitare, donc c'est bon, c'est un peu n'importe quoi. Elias, évidemment, est au centre du ring, mais il a pas sa guitare, il se sent tout nu, donc il propose de chanter une chanson a cappella. Alors il propose de chanter Wonderwall, hein, de Oasis, pour que les plus vieux d'entre nous s'en souviennent.
Groupe anglais, hein, forcément.
Voilà, hein, les chansons de Oasis, un des plus grands groupes anglais des années 90, machin. Il explique que non, il va plutôt chanter une chanson originale parce que ce sera bien meilleur que tout ce qu'a pu écrire les frères Gallagher, si vous voulez. Hein, là-dessus, Jason Jordan arrive, évidemment, hein, parce que c'était une petite chanson a cappella où il critique Manchester, Elias, ça va pas durer 3 heures. Le match est nul. Elias finit par décrocher la guitare, mais il n'arrive pas à placer le coup fatidique puisque Jason Jordan réussit à reprendre la gratte et il explose donc sur le dos de Elias. Victoire de Jason Jordan. Voilà, est-ce qu'on est arrivé au bout de cette rivalité? Est-ce que
qui sort grandi? Non, non, ils vont pas arriver au bout parce que ça, c'est complètement contre-productif ce qu'ils ont fait en fait, puisque Elias dans ce programme qui dure depuis des semaines, Elias prend de plus en plus d'assurance au micro, dans le ring avec son petit show qu'il fait avec ou sans guitare. Il a pris de la confiance, il a pris du level, il a pris de l'XP comme on dit, donc il est de plus en plus à l'aise et ça se voit, ça se sent. C'est plutôt agréable. Dans le ring, bon, on peut toujours être critique, mais au moins son personnage prend de l'ampleur. Jason Jordan, c'est l'inverse total. Dans le ring, le mec a des capacités, il est athlétique, il est puissant, il sait se débrouiller, mais il a le charisme d'une huître et une personnalité approximative de zéro, si ce n'est que c'est le fils de Kurt Angle. Alors, vu qu'il est, il est mis en tant que face, comment on peut adhérer à un face dont la seule particularité, c'est d'être le fils de... du patron, en gros? Ça ne marche pas. Ça ne peut marcher pour un heel, mais pas pour un face. Et donc, dans ces matchs-là, et ce segment pourri où à la fin, il lui casse la guitare, etc., on n'a aucune compassion, on n'a aucune sympathie pour Jason Jordan. Son personnage n'est pas plus avancé qu'avant. Sa popularité n'est pas plus avancée qu'avant. Donc, ça ne marche pas, quoi. C'est juste... non.
Zéro pointé.
Pour Jordan, ouais. Par contre, si le but de la FUD, c'est de faire se développer le personnage d'Elias et qu'il prenne de l'ampleur dans le show doucement mais sûrement, voilà, là c'est réussi, mais je pense pas que ça soit la stratégie à la base.
Ça fait depuis longtemps qu'on dit que pour Jason Jordan, ils sont tirés une balle dans le pied dès le départ et qu'il y avait peu de chances que ça donne quelque chose d'intéressant.
Pourrait.
C'est confirmé. Par contre, effectivement, Elias, lui, il commence à s'imposer tout doucement dans le roster.
Ouais.
On attend un peu son intervention chaque semaine. Voir combien de temps ça peut durer, ce jeu de chansons avec le public. Mais il a le physique, il sait tenir le micro, il sait jouer avec le public. Il y a quand même un bel avenir pour lui.
Oui,
Jason Jordan, ça va passer par un
packaging. Et là, je le vois pas devenir une top star avec un titre mondial, du moins pas pour l'instant, pas avant un sérieux gros packaging ou un sérieux, on va dire, level up en termes de ring. Mais en tout cas, ouais, il a sa place, quoi.
Voilà. Alors, on va aller dans les vestiaires. Cesaro et Sheamus discutent avec Kurt Angle. Mais alors, entre Cesaro qui a son protège-dents. L'accent de Sheamus et apparemment Kurt Angle qui a un peu oublié son texte ou qui dit pas ce qu'il doit dire, j'avoue que j'ai pas bien compris ce qui se racontait. Ça a été coupé avant la fin.
Ouais, là aussi problème technique, hein. Mais en gros, c'est Cesaro et Sheamus qui réclament une opportunité encore une fois pour gagner les titres d'Ambrose et Rollins, que à peu près tout le monde, tous les champions qui vont à Survivor Series ont dû défendre leur ceinture au préalable. Ce n'est pas le cas d'Ambrose et Rollins, donc ils veulent une dernière chance et en gros c'est ce qu'il leur donne, quoi.
Voilà, exactement. Alors, je suis pas sûr qu'il leur donne au moment de la séquence, mais en tout cas, elle s'est donnée après
par les commentateurs, ouais.
Commentateurs, hein. Donc, c'était un peu bizarre, un peu mal foutu. Mais c'est pas grave. On enchaîne avec Asuka qui vient squasher une certaine Stacy Coates. Donc, dans le circuit indépendant, elle s'appelle Isla Dawn, elle est de Glasgow. Elle se fait exploser assez méchamment, hein, des violents coups de pied derrière la tête un peu partout, puis on termine sur sa prise de soumission.
Ouais, j'ai bien aimé là comme elle le fait, une sit-out, bombe, puis ensuite enchaîner sur la Suka Lock. C'était plutôt efficace, bonne transition, quoi. Ça peut être une bonne combinaison pour en faire autre chose qu'une prise de soumission, mais un power move suivi de la soumission, un peu comme le bank statement avec le backstabber juste avant, ça marche plutôt pas mal.
Toujours sympa dans le ring Asuka. Alors elle se balade un peu, elle fait des allers-retours à la fin dans le ring pour qu'on voit bien que la salle est pleine, hein, je pense, parce que là pour le coup ils avaient vraiment le stade qui était plein.
Je pense que c'est un problème technique aussi, hein, encore à mon avis.
Aussi, ouais. Un peu des deux. Alicia Fox et là justement on la voit apparaître sur l'écran. This is your captain, voilà, belle imitation. Et elle annonce donc l'enrôlement de Asuka dans la Team Raw pour les Survivor Series. Asuka dans la Team Raw pour les Survivor Series, t'es convaincu toi ou t'es perplexe? Moi je suis un peu perplexe.
Alors, disons que c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, de mon point de vue, à partir du moment où Asuka est dans la Team Raw pour Survivor Series, ça m'indique que c'est Raw qui va gagner le match féminin. Parce que je ne vois pas pourquoi, ni comment, ni sur what the fuck, quelqu'un pourrait faire le tomber sur Asuka, dont le personnage, la mythologie, on va dire, qui l'accompagne dans sa transition d'NXT au main roster et c'est le fait qu'elle a été invaincue. Et là, son deuxième match de pay-per-view dans un match 5-on-5 Survivor Series, elle prendrait le tomber sur quelqu'un. Non, ou alors ça serait une... dans une tricherie absolue, ou elle serait à 3 contre elle, j'en sais rien, mais ça serait débile. Donc du coup, ça serait décrédibilisant pour le personnage qui... Ils ont un peu de mal, je trouve, hein, à lui donner vitesse de croisière entre les matchs contestés et pas vraiment concluants contre Emma ou la TLC au Raw du lendemain. Puis là, deux semaines, on l'a fait squasher... des jobbers locales, bon, c'est pas très glorieux. Donc, ouais, ils n'ont pas intérêt à la faire perdre dans Survivor Series. Donc, du coup, ça me dit, ok, bon, bah, ça me spoil plus ou moins le résultat. Je peux me tromper, mais c'est moi ce que j'entrevois. C'est les fans de Raw qui vont gagner la bataille âpre contre SmackDown. Voilà. Et après, je trouve dommage cette espèce de vidéo de Alicia Fox qui dit, ouais, je te veux dans mon équipe. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'interaction. Alors, c'est toujours problématique avec les Japonais, que ce soit Nakamura ou Asuka. On sait que niveau promo, c'est pas vraiment là, mais j'aurais bien vu qu'après le squash, Asuka prenne le micro et elle dit quelque chose comme « Personne ne peut survivre à Asuka. No one can survive Asuka. » Comme elle le dit généralement à NXT, « No one is ready for Asuka. » Personne n'est prêt pour Asuka. Là, qu'elle fasse juste une modification. On disait « Personne ne peut survivre. » Echo à Survivor Series, ce qui aurait de suite affiché la volonté d'Asuka de dire « Je veux être à Survivor Series ». Et plus tard dans le show, effectivement, Alicia Fox, par un moyen ou un autre, dit « Bien sûr, welcome, be my guest, on est très content de t'avoir, t'es notre arme fatale ». Là, ça aurait été un peu plus sympa, là, ça faisait vraiment, c'était bizarre, elle célèbre sa victoire, elle s'en va vers Titan Tron, puis elle revient dans le ring, il y a cette vidéo, il n'y a aucune interaction, c'était pas très bien fait, c'est dommage.
Ouais, petit problème technique peut-être aussi de leur côté sur cette séquence là. Donc effectivement, Asuka dans la team, ouais, effectivement, moi je vois du coup une victoire de Raw également. Bon, après on a vu par exemple l'année dernière, Braun Strowman était dans l'équipe de Raw, ça l'a pas empêché d'être éliminé, il est encore dans l'équipe de Raw cette année, donc ça assurait une victoire pour Raw au niveau des mecs, au niveau des filles, est-ce que c'est pas un peu trop dominateur pour le show rouge. Après, c'est le show rouge qui a été agressé, donc...
C'est ça. Il y a de ça. Et l'année dernière, c'est SmackDown qui avait gagné, donc du coup, il y a quand même de grandes chances que ça soit Raw qui prédomine au global. Ouais, enfin, on verra. On peut avoir des surprises.
Exactement. Allez, voyons la suite. Charlie Caruso... Dans les vestiaires, la belle Charlie Caruso reçoit Titus Worldwide, hein, Titus O'Neil et Apollo fucking Crews. Ce soir, Titus doit affronter Samoa Joe, hein, qui était revenu la semaine dernière et qui avait explosé Apollo Crews. Et puis aussi Titus, hein, tant qu'à faire. Donc là, ils sont pas contents. Ils sont badass aussi, Titus et Apollo. Ils expliquent que ce soir, ça va être ugly, ça va être dégueulasse. Et Samoa Joe a plutôt intérêt à être sur ses gardes.
Ouh là là. Attention, Joe. Bon,
moi, j'étais pas bien, hein, j'ai tremblé.
Ouais, je me suis dit, merde, ils vont blesser Joe, il va repartir en convalescence pendant des mois.
C'est ça. À deux contre un, en plus, une baraque comme Titus O'Neil et un acrobate là, comme Apollo fucking Crews, il doit surveiller ses arrières. Donc voilà, le match, c'est juste après. Donc Titus O'Neil et Apollo Crews débarquent sur la rampe d'accès, ils sont gonflés à bloc et Samoa Joe arrive par derrière et il les tue, hein, il prend Apollo Crews et il l'envoie dans le public, valdinguer, hop, on ne le reverra plus. Titus, il se fait démonter, on le passe dans le coquille de la clutch sur la rampe, il n'aura même pas atteint le ring, c'est fini pour Titus. Voilà, Titus Worldwide, c'est plié,
c'est mort, on ne les reverra
c'est
plus
mort. Voilà, on ne les reverra plus.
Je pense que demain, la WWE fait une annonce sur leur site, pas comme quoi ils ont release, hein, mais comme quoi il y a des funérailles d'Apollo Crews et de Titus O'Neil aura eu la semaine prochaine.
Voilà. Vendez vos actions, Titus Worldwide, c'est fini. Il va quand même aller au ring, hein, Samoa Joe, parce qu'il n'a pas trop transpiré pour le coup. Il explique que voilà, on a beau être un acrobate performant comme Apollo Crews ou une montagne comme Titus O'Neil, Ça n'a pas d'intérêt, hein, puisque il est instoppable, tout le monde sera détruit, Samoa Joe. Et puis comme il est encore chaud, ben il propose un open challenge. Allez, qui c'est qui a un problème contre moi? Je l'explose ce soir. Qui c'est qui débarque, hein, quand on lance des open challenge? Qui a peur de rien? Un homme extraordinaire qui fait des choses extraordinaires, le Demon King, Finn Balor. Qui joue à domicile un peu, hein, parce qu'il est un peu anglais ou.
Il est irlandais.
Voilà. Mais voilà. Irlandais.
Royaume-Uni.
Voilà. Donc le voilà, Finn Balor qui débarque, et puis c'est parti pour la castagne. Alors ils se connaissent bien les deux, hein, Samoa Joe et Finn Balor. Ils avaient fait une excellente rivalité à NXT avec d'excellents matchs.
C'est ça, hein, pour l'histoire, Balor était champion NXT et c'est Joe qui l'a mis à la retraite d'NXT en prenant son titre avant que Balor rejoigne le main roster. Donc là, c'est effectivement, comme tu dis, ils ont déjà fait des gros matchs ensemble au sein de la WWE.
Exactement. Droit en Angleterre, hein, je crois. Je crois que c'était à TakeOver London qui s'était foutu sur la gueule.
Ouais, c'est pas impossible.
Et donc, c'est le. Voilà, ça fonctionne toujours très bien entre les deux. Hein, chacun déroule tout son arsenal de coups dans tous les sens. Après, hein, son enchaînement, si vous voulez, Sling Blade, Shotgun Dropkick et tentative de coup de grâce qui est esquivé, enfin coup de grâce plutôt, qui est esquivé par Samoa Joe, on va s'exporter à l'extérieur du ring. On n'en finit pas de se foutre sur la gueule à tel point qu'il y a un double décompte extérieur. Et donc le match se termine sans réel gagnant. Mais alors personne n'est content. On continue à se foutre sur la gueule. Les gens sont là, laissez-les se battre parce que la sécurité arrive pour les séparer. Kurt Angle débarque. Et pour mettre fin au débat, Kurt Angle gueule un grand coup. Il tape le poing sur la table. Voilà ce que j'aime voir. Voilà ce que j'aime voir chez mes catcheurs. Donc tous les deux, vous avez gagné. Vous serez au Survivor Series dans la team Raw. Voilà, Samoa Joe et Finn Balor, les deux ennemis qui feront partie de la team de Raw pour Survivor Series. Et tout ça se conclut par une jolie cascade de Balor qui est quand même pas calmée. Et il passe sous le citron, et puis fait une cascade vers le contrebas, là où est Samoa Joe encore retenu par les officiels. Ça n'en finit pas de se foutre sur la gueule, c'est pas fini la rivalité, mais ils devront faire équipe au Survivor Series. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Très bien, très bien, j'ai trouvé. Le public était un bon indicateur, hein. Il gueulait, il exigeait tout public de Manchester qu'on les laisse se battre, alors qu'il n'y avait aucune storyline, aucun programme entre les deux, hormis ce qu'ils avaient fait NXT il y a quelques années. Donc voilà, en quelques minutes, en 10 minutes, un quart d'heure, arriver à ça, c'est plutôt bon signe. Ça n'a réinvente rien du tout. C'est dans les classiques du catch d'un affrontement assez tendu et à force quasi égale entre deux performeurs appréciés par le public. Hein, l'un face l'autre heel, le match part en cacahuète, il n'y a pas de fin, il continue à se tabasser, etc. Voilà, on a envie de voir la suite. Donc du coup, en quelques minutes, il nous donne envie de voir cette rivalité. On sait en plus, comme tu l'as dit, que ça donne des trucs vraiment très bons dans le ring. C'est une vraie bonne nouvelle pour Finn Balor, hein, qui était enterré, enseveli sous des rivalités, des storylines pourries avec Bray Wyatt. Là, ça y est, on va vers quelque chose de... un peu croustillant et d'intéressant, qui est moins sur la mythologie de son personnage fantastique, mais qui est plus sur les deux excellents catcheurs que sont Balor et Joe. Donc c'est très bien. En plus, ça les met dans l'équipe Raw. Ils avaient tous les deux légitimement leur place. C'est un très bon choix d'enchaîner là-dessus. Et en plus, ça met un vrai intérêt dans cette équipe de Raw, parce que moi, même si elles sont pas totalement complètes, ces équipes, il manque une personne dans chaque équipe pour l'instant. Ce que je déplore chez SmackDown, c'est que c'est une équipe de face intégralement. C'est que des gentils, que des gens bien intentionnés, que des boy scouts, tout va bien, c'est la fête, tu plais là. Au moins, dans l'équipe de Raw, il y a des tensions, il y a un Braun Strowman incontrôlable, il y a un Kurt Angle qui est aux abois, qui a été attaqué par Shane O'Mac et qui en veut et qui a son job en jeu. Il y a Balor et Joe qui sont coude à coude et qui sont prêts à sauter sur la gorge, mais qui doivent cohabiter au sein de la même équipe. Bref, il y a un vrai intérêt de rivalité, de relations et de personnages dans cette équipe Raw qui n'existe absolument pas dans l'équipe de SmackDown. Donc je suis content au moins de voir qu'au moins une des deux équipes a des histoires sous-jacentes qui sont intéressantes.
Exactement. Ouais. On voit la profondeur du roster de Raw quand même, qui est parfois un peu exploité à la légère, mais là, sur un coup comme ça, on va remercier la méningite, hein, j'ai envie de dire, qui permet d'avoir un peu cette rivalité qui se construit tout de suite rapidement entre Baylor et Samoa Joe. Et puis c'est le genre de rivalité qu'on a envie de voir, hein, passer. C'est Bray Wyatt, là, Sister Abigail et compagnie. Non, c'est complet, c'est sympa, ça booste un peu la carte, il y a du star power. Vite fait, bien fait. Donc ça, on kiffe. Le mistourage dans les vestiaires. Alors, petit discours de motivation de Bo Dallas, hein, on est là, on va gagner, hein, il n'y a pas à avoir peur de Braun Strowman, etc.
Halloween, c'est fini.
Halloween, c'est fini, voilà.
Le monstre des poubelles,
Ouais, c'est pas un monstre, c'est un homme, etc. Curtis Axel, lui, est à deux doigts de se déballonner. Hein. Il dit non, moi je suis pas trop sûr. T'as vu ce qu'il m'a fait. Je suis pas trop chaud pour y aller. Là, j'ai vraiment peur, hein, il dit clairement. Et le Miz le regarde un petit peu méchamment. Donc là, Curtis calme les choses. Hein, il dit ouais, bon, écoute, si t'as pas peur, on n'a pas peur. Et puis voilà, c'est parti, mais sans grande conviction.
Oh non.
On se retrouve toujours dans les vestiaires. Kurt Angle au téléphone qui est en train d'harceler Daniel Bryan. Hein, il dit excuse-moi, c'est pas ma faute, machin. Et il y a Jason Jordan, son fils illégitime, son bâtard, qui débarque. Et,
son bâtard,
t'as vu? Et bah voilà, ils se prennent dans les bras, ils se font des câlins, et puis Kurt Angle lui dit bah c'est bien, t'as bien bossé mon fils, tiens tu seras dans le Survivor Series, tu viendras dimanche, hein, tu prends le break, tu passes par derrière, je te donne les clés. Et ouais. Voilà, donc Jason Jordan sera le cinquième homme des Survivor Series. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Ouais, bah je pense qu'il déroule vraiment l'artillerie sur bon, il faut sauver le soldat Jordan, hein, je sais pas, pour donner un peu de pop ou d'intérêt, je sais pas. Alors après, il reste encore une semaine, il reste encore un row derrière.
Hein, ouais, il peut encore se faire casser la gueule et remplacer par quelqu'un d'autre.
Voilà, exactement. Genre Kane qui débarque, il fait non, je veux en être. Qui lui délivre 15 shock slam, voilà. 3 tombstone, l'enterre dans un cercueil, dans un camion poubelle, dans une ambulance, sous un blade de béton, avec une guitare.
Voilà, et t'assures que ça on sort pas. Ouais, sinon, ce serait quand même un peu triste d'avoir ce Jason Jordan là au milieu de toutes les têtes d'affiche. Bon, il y a quand même au niveau de SmackDown, on n'est pas au top du star power, mais quand même, il est pas prêt. Comme disait Booker T, Jason Jordan n'est pas prêt pour ce type d'affrontement. Les filles, Bailey et Sasha Banks dans les vestiaires qui revendiquent leur place dans la Team Raw. Bah, y aura un match ce soir justement. Nia Jax et la capitaine de Raw, Alicia Fox, affrontent donc Sasha Banks et Bailey. Donc c'était un peu improvisé parce qu'ils n'avaient pas trop l'air au courant, les commentateurs. Bon, ça saoule sur la gueule. À un moment donné, Nia Jax casse un tombé.
Très bonne analyse. Bon, le match, bah, elle se fout sur la gueule. Voilà.
À un moment, Nia Jax casse à tomber, puis après elle s'en prend à Bailey, elle essaye de sur le coin des cordes, alors Bailey essaie de la faire passer, Sasha Banks arrive derrière, elle fait tomber la grosse Nia, et ensuite on s'occupe d'Alicia Fox, bank statement, abandon, victoire des gentils, et après le match, Alicia Fox n'a pas d'autre choix que d'incorporer Sasha Banks et Bailey dans l'équipe de Raw. Mmh. Parce que de toute façon, il n'y a plus personne hein, dans le roster à part Dana Brooke.
Et Mickie James.
Et Mickie James.
Voilà.
Ah ouais, c'est vrai qu'elles sont encore là. Mais ce ne sera pas Dana Brooke et Mickie James, ce sera bien Sasha Banks et Bailey.
Alors non. Moi j'avais cru ça aussi, en fait, et en revoyant cette partie du show pour prendre mes notes, pour l'analyse, je me suis rendu compte qu'elle ne s'adresse qu'à Sasha Banks. Elle dit Sacha, j'ai besoin de toi dans mon équipe. Sacha qui est toute heureuse et c'est pour ça que Bailey elle fait la tronche, elle est sur le tapis en train de faire dans les cordes, c'est parce qu'en fait Alicia Fox ne propose la place qu'à Sasha Banks et pas à Bailey. Donc, du coup, il y a toujours un spot de libre. Mais bon, on est d'accord. Hein, qui c'est qui va le prendre, ce spot?
Je pense Bailey.
Voilà, mais la semaine prochaine, voilà, il va falloir que Bailey fasse ses preuves. Donc voilà, là, sur ce, en tout cas, ce qu'il en est ce soir, c'est Sasha Banks, mais pas Bailey dans l'équipe.
D'accord. De toute façon, tant qu'il y a Nia Jax dans le roster, moi, je suis pas content.
Non,
je l'aime plus du tout, c'est fini. Depuis qu'elle fait sa diva, là, qu'elle veut pas perdre contre Sasha Banks. Elle est blacklistée pour moi. Elle est dangereuse, elle progresse pas dans le ring, elle fait jouer ses relations. Voilà.
C'est vrai que
faut bien qu'il y ait quelqu'un que j'aime pas dans le roster, ce sera elle.
Donc... C'est vrai que c'était pas terrible ce soir, Nia Jax. Hein.
Ben non, c'est pas terrible. Mais ça se voit qu'elle déjà elle veut pas catcher avec Sasha Banks, donc
c'est pas qu'elle veut pas catcher, c'est qu'elle voulait pas une. Elle voulait pas perdre clean, du moins de ce qu'on en dit. Hein,
c'est maintenant, ça a dû s'envenimer et je pense qu'elle veut même plus trop interagir parce que c'est Bailey qui a fait tout le match quasiment. Il y a eu quelques interactions, mais c'était un peu dégueulasse. Il y a eu des trucs qui se font pas, un tirage de cheveux pour casser un tombé.
Ouais, le problème de toute façon, c'est que aussi dans les rumeurs de ce qui se passe dans le ring, dans les vestiaires, Sasha Banks aussi apparemment a un tempérament un peu diva également, donc forcément.
Ouais, mais elle peut se permettre, Sasha Banks, tu vois.
Parce ouais.
Que c'est pas elle qui a tout fait pour la Diva Revolution, c'est pas Nia Jax.
Non. Mais elle a pas fait tout seule non plus, Sasha Banks. Hein. C'était plusieurs.
En grande partie. Il n'y aurait pas eu Sasha Banks en.
T'enlèves Charlotte, c'est compliqué aussi. Bref.
Ouais, mais Charlotte, elle a progressé parce qu'elle était en rivalité avec Sasha. Comme Bailey, comme les compagnies. Je pense que c'est vraiment elle l'instigatrice de tout ça. Mais
ouais.
Je suis peut-être un peu trop marque de Sasha Banks, je ne sais pas.
Je pense aussi.
Si,
je pense.
C'est possible. Enfin, bref. Du coup, faut attendre la semaine prochaine pour avoir la team au complet.
L'équipe complète, ouais.
Si j'ai bien compris maintenant.
C'est ça. Qui a encore un intérêt parce qu'ils auront fait faire des matchs à tous les champions de l'univers, là, à une semaine du pay-per-view. Tous les matchs qu'on aurait dû avoir à un pay-per-view normalement, on les a eu avant. Si toutes les équipes sont complètes, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, quoi?
C'est ça.
À un moment donné.
Je ne sais pas, il y a des matchs à faire. Bon, Braun Strowman contre le Miz, c'est ça la suite des événements.
Ouais.
Donc Braun Strowman évidemment détruit le Miz, il détruit le Miz tout rage pendant tout le match. Hein, il les envoie valdinguer de l'un de l'autre, même le pauvre Curtis Axel avec sa Minerve, hein, il se prend quand même une petite lariade dans la face.
Oh, une grosse.
Une grosse
lariade. Ouais. Et j'ai adoré la façon de Bo Dallas de vendre l'espèce de grosse méga tarte qui se prend dans la gueule. Il a une tête qui est juste fabuleuse.
Ouais. Non, ils sont excellents dans leur rôle, le bistourage.
Ouais.
Donc, tout ça se termine un peu abruptement, puisque c'est bien le monstre Kane, le Big Red Monster, qui débarque. Sa musique retentit, il vient confronter Strowman. Ça se fout sur la gueule en tentative de choc slam, mais c'est contré. Power slam de Strowman sur Kane. Kane se relève façon Undertaker, hein, hop, comme ça, une seule traite. Il est envoyé à l'extérieur du ring, mais il retombe sur ses pieds, il se toise comme ça, hein, Strowman et Kane. Le Mistourage rentre dans la partie, ils viennent attaquer Strowman, et ils sont quand même balayés. Power slam. Je sais même plus s'il y a eu un décompte, mais le match a été arrêté quand Kane a attaqué.
Ouais. Hein. Disqualification.
Voilà, donc victoire de Braun Strowman par disqualification, une nouvelle confrontation face au monstre Kane. Est-ce que tu es convaincu, toi, par cette confrontation entre le vétéran Kane, qui est désormais instoppable, indestructible, et Braun Strowman, qui est toujours...
Toujours pareil, c'est quel est le but derrière? Est-ce que c'est de faire un dernier run pour Kane? Pourquoi pas? Il y a une sorte de passage de flambeau de monstre à monstre, ça pourrait avoir du sens. J'ai bien aimé les quelques échanges entre les deux sur ce rôle-là, puisqu'il y avait vraiment eu des moments où il y en a un qui s'est balancé, qui retombe dessus sur ses pieds. Bref, il y avait vraiment, ils ont réussi à donner en 2-3 échanges l'impression que ils n'arriveraient pas à se débarrasser de l'un comme de l'autre facilement, et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien foutu. Alors après, le match que ça donnerait censément entre les deux me vend pas du rêve, mais bon.
On a eu des bons affrontements Big Show-Strowman,
ouais.
Hein, je pense qu'on peut s'en sortir avec un bon match Kane-Strowman. Ils savent quand même booker, c'est des matchs de super heavyweight, c'est un peu la spécialité de la WWE. C'est le genre d'affiche que vous verrez nulle part ailleurs, ça pour le coup.
Ça c'est vrai.
chercher dans toutes les divisions, toutes les fédérations indépendantes
monde,
dans
ouais.
tous les pays. Un match entre deux gros monstres comme ça, c'est que la WWE.
Les Hulk Hogan, André the Giant, voilà, c'est ce modèle-là de match, de powerhouse que Vince raffole, qu'avait fait effectivement le succès de la WWE. À l'époque, c'était la WWF dans les années 80-90, donc il y a une tradition là-dessus, ils savent vraiment faire.
Ouais. Ils savent booker, donc ça peut donner du, ça peut quand même donner du bon au final. Il a l'air plutôt bien en jambes, Kane, malgré les années. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé un petit changement de vêtements, enfin de costume pour le coup pour Kane, mais bon, on fera avec ça. J'étais déçu vraiment quand ils avaient fait perdre Finn Balor face à Kane.
Mmh. Oui, non, c'était n'importe quoi. Enfin, c'était
n'importe quoi.
C'était sacrifier Balor pour pas grand chose.
C'est ça. Mais comme Balor repart contre Joe, Joe qui était quand même dans le main event face à Brock Lesnar, voilà, ça va redonner du prestige à Balor. Et puis on va pouvoir avoir cette confrontation entre monstres qui est inévitable de toute façon, parce que le but là ça va être de monter Braun Strowman, hein. il faut aussi réhabiliter Strowman,
oui.
Est en passe de devenir quand même une des grosses têtes d'affiche, tout doucement. Je trouve qu'ils prennent leur temps peut-être un peu trop,
Non, il est en gros favori de la foule, hein. C'est clair que il a su naturellement prendre l'espace que la maladie avait ouvert, hein, avec l'absence de Reigns. Voilà, le mec power, crédible, qui en plus a le viva de la foule, puisqu'il a un côté méchant, du moins violent, que les gens aiment bien. Non, ça marche au micro, dans sa partition, il se débrouille très bien. Non, il a su faire des bons matchs aussi.
Ouais. Une grosse carte à jouer avec Strowman. Donc on va voir comment il va se débrouiller au Survivor Series, s'il est encore de la partie après la semaine prochaine. Ambrose et Rollins, les champions tag team, sont dans les vestiaires avec Renee Young. Ils se foutent de la gueule de Sheamus, hein, et Cesaro, hein. Ils expliquent que la vraie barre c'est eux, et ils disent qu'ils sont un petit peu, ils ont une hygiène corporelle un petit peu bizarre, ils sont habillés bizarrement. Voilà, ils essaient de pousser un petit peu Renee à partager leur avis, mais elle dit qu'elle reste neutre, hein, etc. Ils s'en vont après avoir fait le fist bump, et Renee Young fait le fist bump toute seule. C'était mignon, ça nous
c'est
a
ça.
Fait rire.
Genre, oh, personne ne regarde.
Voilà.
Oh. Je suis fan de vous. Dean, je t'aime, Dean.
Bisous, bisous. Hein, parce qu'on vous rappelle que Renee Young, elle est maquée avec Dean Ambrose. Ils sont amoureux, ils se font des bisous. Allez, les cruiserweights, hein, on s'inquiétait, tu me disais où sont les cruiserweights, c'est annulé, c'est fini cette division, pourquoi il n'y a pas les cordes violettes. Eh bien, Enzo Amore débarque au grand plaisir de la foule de Manchester qui relance le fameux chant sur Enzo Amore.
Ouais, d'ailleurs, ils avaient fait la même chose à Bailey, hein, d'ailleurs, hein, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce chant de Bailey, et ça se faisait huer récemment, et là, puis Manchester qui prend l'opportunité de faire des chants, elle est de face pour Bailey et Enzo Amore. Je pense que Bailey était toute contente. Bailey a dû être vraiment soulagée.
C'est ça. Très populaire en Angleterre. Je crois que c'était justement Takeover London qu'ils avaient commencé à lancer ces chants-là.
Ah, c'est pour ça.
Un peu à contre-courant de ce qui se fait habituellement chez les Nord-Américains. Donc voilà, Enzo se fait quand même huer. Hein. Bon, il y a quelques partisans. Et il va parler pendant, je sais pas, 10-15 minutes non-stop. Enzo Amore, c'est un remède de Monsieur Smith au Sénat. Il explique qu'il y a une conspiration à la WWE, que bon, même le public est contre lui, mais c'est lui qui ramène l'argent, blablabla. Bla, bla. Et là-dessus, il y a enfin.
J'ai bien aimé. Il dit ouais, moi je vaux mon poids en or, je le vaux carrément, alors que Kalisto, il vaut même pas son poids en Doritos. Bon, limite un peu raciste, mais drôle.
C'est ça. Il imite aussi un petit garçon qui est venu lui poser des questions. Hein. Il dit qu'il était de la même taille que Kalisto. Alors, j'ai cru que c'était Kalisto au départ. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour le champion cruiserweight? Il y a Kalisto. Mais il dit, t'as pas déjà affronté Kalisto une fois, etc. Si, c'est comme ça. Mais il y a une conspiration. Là-dessus, alors vraiment, il a parlé pendant longtemps. Hein. Même les commentateurs commencent à en avoir assez. Hein. Ils sont là à dire, couper-lui le micro, c'est pas possible. La musique de Kalisto retentit, Lucha Lucha, tout le monde est content, Kalisto va lui régler son compte, mais non, Il vient, il prend une chaise et il se met en dehors du ring. C'est quelqu'un d'autre qui va débarquer. Et là, il y a une musique qui retentit, une musique rock and roll, une musique qui fait peur. Kurt Angle qui débarque. Il annonce l'arrivée d'un invité spécial, rien moins que le champion UK de la WWE, Pete Dunne. Pete Dunne, le Bruiserweight, qui débarque et qui va s'occuper d'Enzo. Alors, le combat, c'est façon Bruiserweight, hein, ça attaque direct, hein, parce que Kalisto, il vient, Enzo essaye de le narguer comme ça. Bruiserweight, il lui met un bon coup de coude dans la gueule direct. Ça part dans tous les sens. Enzo réussit à un moment donné, grâce à l'utilisation des cordes, à prendre un petit peu l'avantage. Il va mettre un petit peu à terre le Bruiserweight, lui mettre quelques coups de derrière la nuque. Mais Enzo, il va aller un petit peu narguer Kalisto, et là le Bruiserweight en profite, il vient lui mettre un bon coup de coude, un running elbow dans la face, et il lui place son finisher. C'est fini pour Enzo en quelques minutes. Une victoire de Pete Dunne, voilà, le champion UK qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps à la WWE. Qu'est-ce que t'as pensé de ce petit caméo qui nous assure peut-être quelque chose pour la suite?
Bah, je sais pas, parce qu'on est en Angleterre, donc forcément, depuis que la WWE a investi à faire leur tournoi anglais l'année dernière, etc., donc on voit un peu les catcheurs de cette division de temps en temps à NXT. Alors, moi, j'aime beaucoup Pete Dunne, hein, il rend vraiment très bien. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de regarder son affrontement contre Tyler Bate, l'ancien champion UK, lors de leur match à NXT TakeOver Chicago. Ça avait été un match fabuleux, incroyable, un show stealer, alors que la carte avait déjà de très bons matchs. Celui-ci était juste complètement fou. Donc là, ce qui est dommage, c'est que il y avait tellement peu de temps pour qu'il nous montre à Raw ce qu'il sait faire, et surtout face à Kalisto, on fait pas face à Enzo Amore, c'est pas un adversaire qui lui permet de pouvoir montrer ça. Donc il nous annonce après que le lendemain à 205, qui sera aussi en Angleterre, la division UK est invitée par 205. Donc on voit un écran avec Pete Dunne, Tyler Bate et d'autres. Donc il va y avoir des matchs de la division anglaise à 205. Mais bon, je trouve dommage, ça faisait un peu trop caméo pour le public, genre ah, vous êtes anglais, vous savez quoi, on va vous mettre un match avec le champion anglais qui gagne contre Enzo avec distraction, enfin avec aide plus ou moins de Kalisto. En plus, Pete Dunne, il est censé être heel. Là, il est présenté en tant que face. Moi, j'aurais booké ça différemment. Il y a une occasion manquée. Ils auraient pu mettre Enzo avec Drew Gulak dans le ring, comme depuis quelques semaines. Ils font leur promo, ils se vantent. Kalisto qui débarque, qui dit que ici, on est en Angleterre et Enzo va pas faire sa loi parce qu'ici, c'est le territoire des Anglais. Là, débarque Tyler Bate et Trent Steven, Moustache Mountain, un des piliers de la division anglaise qui commence à arriver près du ring. Et là, ils sont 3 contre 2. Et là, arrive donc du coup Pete Dunne qui rappelle aux deux autres que c'est lui le champion et c'est lui qui gère. Et on pouvait avoir un match par équipe. Enzo, Amore, Drew Gulak et Pete Dunne versus Kalisto, Tyler Bate et Trent Seven, en donnant un peu plus de temps, ça aurait fait un vrai gros match plutôt cool pour le public anglais. Là, c'était un peu facile et service minimum, j'ai envie de dire.
Ouais, voilà. Pete Dunne, il a pas non plus dominé tout le match, ça a pas été expéditif. Non. Moi, j'aurais préféré voir dans ces cas-là carrément un squash, parce que se prendre quelques coups, se faire mettre à terre par Enzo Amore, c'est pas super, hein, pour la renommée. J'étais quand même très content de le voir arriver. Moi, j'ai commencé à suivre la Progress là depuis quelques mois, et il vient de faire son discours d'adieu à la Progress Pete Dunne, donc ça tend à prouver qu'il devrait commencer à avoir une place plus importante à la WWE. Maintenant, sous quelle forme, est-ce que ça va être dans 205 Live, est-ce que ça va être à NXT, est-ce qu'il va réussir à intégrer définitivement Raw,
et je sais pas, parce qu'en plus à un moment donné il précise, lorsque je crois c'est Michael Cole ou Corey Graves qui présente un peu Pete Dunne pendant le match, il lui dit voilà, il fait telle taille et il fait 205 pounds.
Ouais,
Ils ont, j'ai repassé le passage pour avoir sûr d'avoir bien compris. Il fait 205, puisque 205 lives, c'est 205 pounds, c'est le poids maximum de la division. Donc, est-ce que, vu que les Anglais, pour la plupart, sont quand même des petits gabarits, est-ce qu'ils vont pas les fusionner à 205? Je sais pas.
Ça... Ouais, alors ça pourrait sauver 205 lives. Ça pourrait donner un certain intérêt au show 205 Live, surtout si Tyler Bate et Trent Seven incorporent le.
Trent Seven, il fait plus de 205. Hein.
Ouais, mais c'est les balances de la WWE, etc. Ce serait encore, en tout cas, un ajout majeur pour 205 Live qui donnerait envie de regarder le show. Là, on va regarder cette semaine, vu qu'il y a les Anglais qui sont là, mais bon, à voir.
Tu me raconteras, hein.
Je te raconte.
Tu me diras si c'était bien.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à regarder aussi. Il y a eu beaucoup de catch ce week-end, donc voilà, on va regarder, mais peut-être pas de suite hein, non plus. Voilà, donc arrivé en demi-teinte quand même par Pete Dunne, la grande classe quand même. Ça aurait pu être booké un peu mieux.
Ouais.
Si vraiment ils veulent capitaliser dessus derrière, là on a vraiment l'impression que c'est plutôt une place dans la low card hein, qui va s'installer dans un premier temps. Pour Pete Dunne, mais bon, ils peuvent nous faire mentir, c'est quand même un projet de Triple H, etc., etc. Voyons, il a quand même un physique un peu petit pour percer vraiment de manière exponentielle à la WWE. Hein. C'est déjà bien d'avoir fait le parcours qu'il a fait, hein, Pete Dunne.
Ouais, mais bon, s'ils le mettent à moins dans le main roster, je vois bien jusqu'à décrocher un titre intercontinental, quoi. Ça serait pas déconnant.
Ça serait pas déconnant.
Ou se remettre en équipe comme il faisait à la Progress à l'époque, avec Tyler Bate et Seven, et faire leur équipe, ouais. Slash Mountain ou le British Strong Style. Le
British Strong
voilà,
Style.
Voilà, et aller chercher des Tag Team Championship. Hein.
Il faudrait que les bookers d'Euro comprennent comment les booker. C'est pas gagné quand même.
Non.
Alors, la suite des opérations. Alexa Bliss. Avec Charlie Caruso. Alexa nous rappelle qu'elle dominait le roster à SmackDown. Hein, quand elle était à SmackDown, elle était deux fois championne. Natalia, elle n'a jamais été championne quand Alexa Bliss était aux commandes, parce que c'était Alexa Bliss la championne, tout simplement. Donc hein, voilà, vous additionnez 1 plus 1, ça fait 1, comme elle dit. Hein, voilà, il n'y a pas de chance que Alexa Bliss perde face à la folle au chat. Ensuite, eh ben je crois qu'on arrive au main event.
Eh oui.
C'est donc Ambrose et Rollins qui affrontent rien moins que Sheamus et Cesaro. Donc un match hein, qu'on a déjà vu plusieurs fois.
Mais là, c'est la dernière chance.
C'est la dernière. C'est la guerre des der.
La guerre des
der. Après, ça n'y aura plus avant la semaine prochaine au moins. c'est toujours très serré entre les deux, hein, puisque c'est à peu près du même niveau hein, entre Cesaro et Sheamus d'un côté, Dean Ambrose et Seth Rollins de l'autre. Donc ils nous font le déroulé du match hein, qui nous ont déjà fait, hein, ça, toute leur panoplie de coups, leur tactique à deux qui sont déployées, jusqu'à ce que Cesaro et Sheamus portent un double crucifix à l'extérieur du ring sur Ambrose sur la barricade. Ils vont tenter une espèce de Tower of Doom sur Rollins. On va au compte de 2. Donc là, ça devient très très serré. On sent qu'on arrive au bout du match quand une musique retentit, un hurlement. Cette célèbre phrase Manchester, don't be sorrow. 4 fois champion, ils sont là. Le New Day qui débarque. Piggy au micro et on a du mal à les trouver, mais ils débarquent tel le Shield via le public. Kofi Kingston, Xavier Woods, le New Day est là. Alors ils félicitent le public d'être resté éveillé pendant les 3 heures du B-show. Hein. Ils qualifient le Raw du show de seconde classe. Hein. Ils expliquent que voilà, ils tapent leur promo. Hein. Les autres sont arrêtés de catcher, ils sont un peu surpris, ils demandent ce qui se passe. Ils expliquent qu'ils sont déjà venus faire une invasion de Raw et que qu'est-ce qu'a fait Raw? Ben rien du tout.
Hein, Nothing.
Donc aujourd'hui c'est Under Siege partout. Hein, deuxième partie de Under Siege. Donc là, il y a tout le roster de Raw qui débarque. Hein, c'est parti, on est en mode protection. Ils essayent d'aller chercher le New Day dans le public. Le New Day se sauve. Hein. Escape, escape hein. Tous ces petits cris comme ça. Ils s'en vont. Et dans le ring, il y a un gars qui n'a pas perdu le nord, c'est Sheamus, qui place un broke kick des familles à Rollins. 1, 2 et 3. Dean Ambrose n'a pas le temps de remonter dans le ring, il est accroché par Cesaro. Et voilà, des nouveaux champions sont couronnés ce soir à Manchester. Bam! Comme ça, d'un seul coup, deux semaines avant Survivor Series, Cesaro reprend le titre. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça?
Alors au début, je trouvais très dommage, vu les très bons matchs qu'on avait eu avec ces deux équipes qui soldent la rivalité avec un match dans un weekly, même en main event en 10 minutes, un quart d'heure. Le match était... j'étais un peu grognon au début. Et puis, sur la fin du match, ils ont commencé à déployer des near falls incroyables. Il y a plusieurs fois où j'ai cru que le match était terminé d'un côté comme de l'autre, comme ils ont si bien su le faire. Ils ont mis le feu en 4 minutes, ils ont passé la 5ème vitesse, c'était juste fou. Vraiment très très bonne alchimie entre les deux. Le clin d'œil au Road Warrior qu'ont fait Cesaro et Sheamus, c'était très très bien vu. Enfin bref, c'était fin de match très bien. D'un coup, cette intervention, what the fuck. Et puis ouais, cette victoire par distraction finalement, à cause d'une distraction. Donc c'est pas mal, ça ne blesse pas entre guillemets le Shield, où on sait qu'ils sont protégés par une aura presque d'invincibilité tellement ils sont over, autant par le public que par le management. Donc c'est bien, ça change un petit peu notre carte pour Survivor Series, c'est bien, ça donne un peu de sens et de justification à ces matchs de championnat qu'on a avant les séries. Ça aussi c'est bien, d'autant plus qu'on nous annonce juste avant le match que la semaine prochaine c'est le retour de Roman Reigns. Qui revient donc la semaine prochaine. Donc on se disait, moi je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qu'il va venir foutre Roman Reigns à une semaine des séries, hein, vu que ça fait un mois qu'il n'est pas là. Est-ce qu'il allait reprendre la place de Jason Jordan dans l'équipe 55? Eh ben non, je pense que l'histoire qu'on va nous raconter, c'est que en plus de tout ça, on aura un match, le New Day face au Shield en entier à Survivor Series. Alors j'ai pas vu SmackDown encore, hein, donc j'en sais rien, mais je pense que c'est ça ce vers quoi on va. Après, il y a toujours la semaine prochaine, peut-être que Rollins et Ambrose vont réclamer leur image la semaine prochaine et regagner les titres, on n'en sait rien, tout peut changer encore, mais je vois bien effectivement un New Day versus le Shield, hein, c'est, je vois pas pourquoi la WWE se priverait de mettre cette affiche là, deux des équipes les plus over ces 5 dernières années en face à face, vu qu'elles sont séparées par les brands. Là c'est l'occasion, vu ce qu'ils nous rappellent chaque semaine depuis un mois, j'en ai ras-le-bol que Survivor Series c'est l'opportunité unique dans l'année de voir s'affronter les superstars de SmackDown et de Raw. Bah ok, mettez les deux équipes phares des shows face à face, ça paraît logique.
Exactement, bah, j'en étais arrivé à la même conclusion que toi. Voilà, on va enrichir l'affiche des Survivor Series avec cette confrontation qu'on a envie de voir, ça. Hein, The Shield contre le New Day, ça nous promet un super match. Hein.
Et puis on aurait aussi les Usos face à Sheamus et Cesaro, qui peut donner de très bons trucs aussi. Donc, après, on sait que les Usos, ils ont leur match de championnat contre Gable et Shelton Benjamin à SmackDown, donc peut-être qu'eux aussi vont se faire voler la ceinture, on sait pas, mais
je ne pense pas, ça me paraît peu probable. J'ai pas vu SmackDown, mais je pense que pour les Survivor Series, il vaut mieux compter sur une affiche d'un côté Uso contre Cesaro et Sheamus. On perd pas vraiment aux chances, hein, puisque c'est quand même d'excellents performants. Ouais. Là, on voit quand même la profondeur, le talent du roster WWE. On l'a vu ce soir, il y a eu pas mal de bons matchs, hein, quand même, entre ce match tag team qui était quand même assez spectaculaire du début à la fin. Samoa Joe contre Finn Balor, c'était quand même tip top. Même un truc comme Kane, comme Strowman contre le Miz, c'est plutôt efficace. Il y a que le Jason Jordan avec une guitare accrochée et puis le match des filles qui n'était pas sensationnel, mais voilà, on voit qu'il y a quoi faire quand même, fournir du bon catch in ring, hein, avec ce qu'on a dans le roster, et surtout quand on monte une affiche New Day, The Shield d'un côté, les Usos contre Cesaro de l'autre. Je crois qu'il va y avoir encore quelques changements, on va pas spoiler sur la carte de Survivor Series, mais voilà, ça vous le saurez si vous suivez le supplément SmackDown qui va arriver dans pas longtemps. Écoute, on a fait le tour du show, on va arriver au mot de la fin. Il nous faut un top, il nous faut un flop, il nous faut une note. C'est impératif, il y a ça chaque semaine, hein, on le fait,
oui,
on l'oublie
toujours.
Jamais. Jamais un oubli. Alors, je t'écoute, mon bon amiral.
Mon top, ça va être Samoa Joe Balor, hein, pour l'écriture toute simple dans le classique, mais qui fonctionne vraiment très bien. Donc ça, bravo, content de voir Finn enfin dans une rivalité à sa mesure. Et de revoir Joe aussi, c'est toujours un plaisir. Le flop, c'est le Guitar on the Pole match. C'était juste tout pourri, tout naze. Ma note, un bon 3 solide.
Un bon 3 solide, ouais. Je vais mettre 3,75 moi de mon côté.
Ah bah, fais donc, sans prix.
Voilà, je suis un peu plus généreux. Mon top. Je vais le mettre à l'intervention des New Day à la fin de ce match. Le Booking Express Shield New Day, ça me plaît bien. Et le flop, je vais le donner à Nia Jax, qui aura sûrement mon flop toutes les semaines pendant un certain temps. Voilà, c'est blacklisté. Voilà, bah on a fait le tour de ce Monday Night Raw, hein, Manchester United. Ah oui, j'ai oublié de dire que Cesaro et Sheamus étaient arrivés avec des maillots de Liverpool, hein, si oui, je dis pas de conneries.
C'est ça.
Qui sont attirés les foudres du public. Ce qui est quand même très malin. Ils sont malins, ces deux-là. Voilà, alors, où c'est que vous pouvez nous retrouver, hein, bah, sur YouTube. Si vous êtes en train de regarder en live, hein, bah, c'est que vous le savez déjà, la chaîne Catch Up, les cahiers du catch. On est aussi sur YouTube. On est sur PodCloud. On est sur Facebook, c'est Catch Up CDC. Sur Twitter, c'est Catch Up CDC aussi. Donc, incessamment, sous peu, vous retrouverez le supplément SmackDown avec nos amis IRM et Giscal, théoriquement. Et bah, vous aurez aussi des petits programmes, hein, de temps en temps. Et ça, pour les avoir, il faut vous abonner, les petits programmes surprises. Il y a plein de choses qui sont prévues, des petits coups de gueule. On va peut-être parler un petit peu d'autre chose que de la WWE. Donc ça, il faut bien vous abonner pour avoir toutes ces informations-là. Amiral, présentateur, réalisateur, merci d'être venu.
Un plaisir.
C'est un plaisir partagé. Puis voilà, bah on se dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao, ciao.
Salut.